carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
L'opéra comique avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent.
Avez-vous beaucoup de monde dans cette auberge ?
Vous, monseigneur, et ceux que vous venez de voir, Milord et Milady.
Milord a été attaqué et dévalisé par les bandits de la montagne.
Depuis que Fra Diavolo s'est établi dans ce canton.
Fra Diavolo ? Qu'est-ce que c'est que cela ?
Vous n'en avez pas entendu parler ? Un fameux bandit ! Et comme dit la chanson...
Nous sommes en compagnie de Marie-Vonne de Saint-Pulgent, présidente du conseil d'administration de l'Opéra Comique, musicienne, musicologue, conseiller d'État et correspondante de l'Académie des Beaux-Arts. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est surtout en tant que présidente du conseil d'administration de l'Opéra Comique.
Vous pouvez dire présidente de l'Opéra Comique, ce sera plus court. D'ailleurs, tous les présidents d'établissements publics sont présidents d'un conseil d'administration.
Alors présidente de l'Opéra Comique, pour faire plus court, mais aussi en tant que musicienne, musicologue, évidemment, parce que nous allons parler, évidemment, d'opéra comique. Et cela tombe bien puisque vous venez d'enregistrer une série d'émissions sur France Culture sur l'histoire de l'opéra comique. Donc j'en réfère aux émissions sur France Culture que vous pouvez trouver sur internet facilement. Alors nous n'allons pas refaire cette histoire que vous avez composée en 20 épisodes sur France Culture en une heure aujourd'hui. Mais nous allons plutôt parler de l'opéra comique de façon générale, esquisser quelques idées, quelques lignes directrices pour son avenir. On va tenter de faire ça. Et d'abord une question toute simple, essayons de circonscrire ce que c'est que l'opéra comique. C'est vrai qu'on en a une idée assez vague. Qu'est-ce qui différencie de son grand frère l'opéra, de sa petite sœur l'opérette, de son demi-frère allemand le Singspiel et de sa demi-sœur italienne l'opéra bouffa ? C'est facile à définir ?
C'est facile au début, parce que le genre de l'opéra comique est né à une époque où, justement, il y avait une réflexion à la fois institutionnelle et esthétique sur la hiérarchie des genres. Hein, mais cette notion d'aujourd'hui, la hiérarchie des genres artistiques qui était...
au XVIIe siècle. Hein.
Voilà, qui était opérationnelle aussi bien dans la musique que dans la peinture, la sculpture, etc. Et aussi dans la littérature. Et l'opéra comique est né à cette époque. Il naît à la fin du règne de Louis XIV et à cette époque, c'est le genre de questions qu'on se pose, non seulement dans le monde savant, mais dans le monde politique. Aujourd'hui, ces notions sont beaucoup plus difficiles à comprendre et l'histoire de l'opéra comique est l'histoire justement d'un genre qui au début est très bien défini par rapport à l'opéra et qui ne l'est plus au XXe siècle. Mmh. Par exemple, Péléas et Mélisande est un opéra comique. Il a été créé à l'opéra comique en 1902 et pourtant, il est aujourd'hui au répertoire de l'opéra de Paris. Alors, quelle est la nature du genre ? Il a été défini très bien au début du XIXe siècle par un décret de l'empereur Napoléon Ier et qui avait justement mis de l'ordre, si je puis dire, dans la responsabilité des théâtres et qui avait assigné à chaque grand théâtre subventionné, à chaque grand théâtre officiel, son genre. Alors, le genre de l'opéra comique est un genre qui mélange le parler et le chanter et qui se fait en français. C'est la définition qui est donnée au XIXe siècle. Alors, la différence avec les autres genres, la différence est donc affirmée avec la comédie française qui fait partie des théâtres, car l'opéra comique est un théâtre. La comédie française ne donne que des œuvres en français parlées et elle a le monopole du vers français. Les autres théâtres parlés peuvent donner de la prose, mais pas de vers. Et l'Opéra de Paris a le monopole de l'œuvre entièrement chantée en français. Et voilà, c'est ça la différence entre les deux genres. Alors, vous avez parlé de l'opéra bouffa. L'opéra bouffa italien, qui est né plus tôt, qui est né au XVIe siècle,
à l'origine... l'opéra comique s'est inspiré.
Oui, sans doute.
Une définition...
Sans doute, plus ou moins, en fait. L'opéra comique est né plutôt de la commedia dell'arte italienne, donc d'un genre dramatique et non pas d'un genre lyrique. L'opéra bouffa italien est un intermède, d'ailleurs ça s'appelle aussi comme ça, intermezzo, est un intermède comique donné entre les actes de l'opéra seria italien, qui celui se rapproche du grand genre français de l'opéra ancien 17e. Et il est fait pour délasser les spectateurs. Il est intimement lié à l'opéra seria. Donc il est comique, comme l'indique son nom, ce qui se traduit par deux choses très importantes. D'abord, il parle de questions vernaculaires, contrairement à l'opéra seria qui s'intéresse à des actes antiques, à des héros, etc. L'opéra bouffa s'intéresse au petit peuple. Et puis, il a effectivement un côté plaisant, amusant, léger, et il est destiné donc à détendre. Mais il se donne entre les actes d'opéra seria, donc il n'a pas d'autonomie. Et ce sont des opéras courts. Alors que l'opéra comique n'a jamais été donné entre les actes de l'opéra français, c'est un genre autonome qui n'est pas né sur les mêmes tréteaux que l'opéra de Paris et qui est plutôt une satire, une plaisanterie en quelque sorte, hein, qui décline le grand opéra sur un mode ironique et aussi très politique. Et c'est en ceci qu'il se rapproche de la commedia dell'arte. Et historiquement d'ailleurs, l'opéra comique, vous savez, est né sur les tréteaux de la foire. Il a été inventé par les foires parisiennes, qui étaient fréquentées à la fois par le peuple et la grande noblesse, faite par tous les Parisiens. Et il a récupéré les thèmes et les personnages, Arlequin, Colombine, etc., des comédiens italiens qui étaient présents en France dans des théâtres officiels depuis très longtemps et qui avaient été, comme souvent d'ailleurs ça leur arrivait, en raison de leur charge contre le pouvoir, de leur côté salace, de leur côté un petit peu provocateur, ils avaient été chassés par Louis XIV du théâtre qui leur avait été concédé et chassés de Paris, interdits de donner leur représentation.
Et à cette époque, c'était quand même proche de la parodie ou
Absolument. C'est à la fois satirique et parodique, c'est-à-dire parodique en cela que ça reprend les thèmes, parce qu'à l'origine, l'opéra comique ne donne pas de musique originale. Elle donne ce qu'on appelle des vaudevilles, c'est-à-dire des thèmes connus avec d'autres paroles que les paroles originelles. Donc, ce n'est pas de la musique originale, c'est pour ça que c'est un genre dramatique. Hein. Ce qui est original, c'est le scénario, ce sont les dialogues, ce sont les paroles, mais la musique, elle, est empruntée à des ouvrages existants. Alors, soit des ouvrages populaires, hein, les chansons, où le répertoire français est considérable, ce qu'on appelle d'ailleurs souvent les chansons du Pont Neuf, car ce sont les chansonniers installés sur le Pont Neuf qui les chantent, soit des airs sérieux tirés d'opéras à la mode, très connus. Et donc c'est à la fois d'ailleurs, c'est pour ça que contrairement à la légende, l'opéra comique s'entend très bien avec l'opéra de Paris, c'est un endroit où on réentend les grands ouvrages de l'opéra de Paris, donc ça fait un peu de la publicité pour l'Académie royale de musique.
Alors, on voit bien la différence, on l'a dit, avec le théâtre, avec la Commedia dell'arte, enfin l'évolution. Par rapport à l'opéra, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, Pelléas et Mélisande de Debussy a été créé là-bas, l'heure espagnole de Ravel. Et quand on voit aujourd'hui la programmation de l'opéra de Paris, il y a aussi certaines œuvres qu'on pourrait classer finalement à l'opéra comique. Est-ce qu'il y a une façon très claire de scinder les choses ?
Non, il y a plusieurs choses. Dans l'histoire, l'opéra comique a considérablement évolué. Par exemple, c'est au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, que la musique originale apparaît dans ce qu'on appelle les ariettes, hein, qui ont été composées spécialement pour un ouvrage opéra comique. Donc à ce moment-là, on quitte le vieux système du vaudeville, ça devient un genre lyrique. Au XIXe siècle, même à la fin du XVIIIe siècle, sous la Révolution, au XIXe siècle, apparaissent des thèmes politiques et aussi des histoires sentimentales. Hein. Vous avez des grands ouvrages, Le déserteur de Monsigny, Richard Cœur de Lion de Grétry, qui racontent des histoires. Donc on n'est plus du tout dans le satirique, dans la parodie, on est
dans le comique.
Oui, dans le comique au sens pas comique, hein, justement, parce que on commence à avoir des situations dramatiques sur la scène. L'invention de ce qu'on appelle l'opéra à sauvetage, type Fidelio de Beethoven, où vous avez un personnage en danger qui est sauvé par un de ses proches, souvent une femme. Tous ces thèmes apparaissent à l'opéra comique. La sentimentalité, la mise en scène de la vertu populaire, des bons sentiments, du sentiment de la famille, c'est à l'opéra comique qu'est donné cet ouvrage où se dit ce quatrain extrêmement célèbre, où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? C'est la scène qui célèbre les vertus familiales qui sont par ailleurs présentes dans les tableaux de Greuze, dans les ouvrages des encyclopédistes, etc. Au XIXe siècle, vous voyez apparaître, pour la première fois, à la fin du XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle, en fait, les fins dramatiques, les fins tragiques, les héroïnes qui meurent. Vous voyez donc toute cette évolution stylistique considérable qui fera que finalement, le genre cesse de plus en plus d'être un genre dramatique. Enfin, à l'extrême fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, on commence à abandonner la distinction entre le parler et le chanter. Pelléas n'a pas de partie parlée, c'est entièrement chanté, avec une déclamation qui, il y a même plus d'air dans Pelléas. Mais à la même époque, vous avez encore des ouvrages qui font les deux. Alors, pourquoi, vous avez dit, l'Opéra de Paris, la programmation actuelle de l'Opéra de Paris, d'ailleurs de tous les opéras internationaux, comporte des ouvrages qui pourraient être. Je vous corrige, ce sont des ouvrages qui ont été. Ce qu'il faut bien avoir en mémoire, c'est que la quasi-totalité des ouvrages français encore présents au répertoire sont des ouvrages qui ont été créés à l'opéra comique. Il y a très très peu d'ouvrages qui sont restés dans le répertoire international et qui viennent de l'Académie royale de musique ou impériale, etc. Ce sont presque tous des ouvrages venant de la salle Favart. Pratiquement tous les grands Massenet qu'on joue aujourd'hui sont des ouvrages faits pour l'opéra comique. Les Massenets qui ont disparu du répertoire sont les Massenets de l'Opéra de Paris. Manon, Werther. Werther est un ouvrage d'opéra comique. Hein. Il a été commandé par la salle Favart. Donc aujourd'hui, ce que connaît le répertoire lyrique français, c'est le répertoire de l'opéra comique. C'est la raison pour laquelle c'est celui que donne l'Opéra de Paris.
D'où la difficulté peut-être pour l'opéra comique aujourd'hui de se situer et d'avoir un répertoire original avec une mise en scène originale qui se différencie, qui se distingue et puis en même temps...
Vous voulez dire d'où la difficulté d'exister de l'institution qu'on appelle opéra comique ?
Je ne vais pas le dire.
Et non pas du genre. Oui et non. Vous savez, une autre différence qui a existé entre les deux théâtres, l'Opéra de Paris et l'Opéra comique, qui existe comme institution officielle, qui coexiste, c'est au XVIIIe siècle que les deux institutions sont devenues toutes les deux des institutions d'État. Lors de la réunion entre la Comédie italienne, qui était revenue après son exil sous Louis XIV, qui avait été donc à nouveau privilégiée par le roi, installée comme théâtre officiel, donc la fusion entre la Comédie italienne et le Théâtre de la Foire, sous le nom de Théâtre de l'Opéra Comique, elle a lieu au milieu du XVIIIe siècle. Et à ce moment-là, vous avez, si je puis dire, jusqu'à nos jours, les deux institutions qui coexistent, qui sont toutes les deux subventionnées, toutes les deux officielles, et qui vont avoir une histoire parallèle sur le plan institutionnel. Elles ont été réunies en 1939, sous le Front Populaire, sous le nom de Théâtre National de l'Opéra de Paris. Et donc, leur reséparation, donc ces deux salles existaient. Vous avez eu toute une période de l'Opéra de Paris où il y avait la salle de Garnier et la salle de Favart. Hein. Et puis, elles ont été reséparées à la suite de la construction de la salle Bastille, qui fait que l'Opéra de Paris pouvait plus gérer trois salle. Donc, il a lâché la salle Favart, en quelque sorte, et a commencé à vivre de sa propre vie. Alors, comment exister ? La différence de responsabilité entre ces deux théâtres, c'est que le théâtre d'opéra comique était un théâtre de création, qui avait pour vocation spéciale de faire débuter les jeunes compositeurs et de donner leur chance aussi aux jeunes chanteurs. Alors que l'Opéra de Paris était la salle officielle où venaient les gloires consacrées, qui étaient très lourdes à gérer, etc. Et ça se traduit par quoi ? C'est que l'Opéra de comique a créé infiniment plus d'œuvres que l'Opéra de Paris.
Encore aujourd'hui ?
Bah aujourd'hui, il est en panne depuis 20 ans, hein, pour des raisons institutionnelles. Hein. Mais je veux dire que jusqu'à sa disparition en tant que scène active, elle a été fermée à plusieurs reprises. Il y a 20 ans à peu près, l'opéra comique créait beaucoup plus que l'opéra comique. Donc il a un énorme répertoire, dont une très grande partie n'est plus représentée à l'Opéra de Paris, pour des raisons qui tiennent au fait que l'Opéra de Paris est une maison très lourde, qui a des coûts structurels extrêmement importants, et donc il ne peut pas représenter des ouvrages qui ne sont pas très connus et qui ne remplissent pas ces énormes salles de 2700 places ou de 2000 places. Il y a d'autres raisons qui sont des raisons tout simplement musicales. Beaucoup de ces ouvrages ne pourraient pas être représentés dans des salles aussi grandes, car elles seraient littéralement dénaturées. Hein. Cela étant, on a parlé de très grands ouvrages qui sont représentés à l'Opéra de Paris. Je pense à Péléas et Mélisande. Quand on compare ce qu'on entend de Péléas et Mélisande dans la salle Bastille, puisque ça a été récemment donné à salle Bastille, prenez un autre ouvrage, le dialogue des Carmélites, par exemple, de Poulenc. Si vous le donnez à salle Bastille, salle de 2700 places, si vous le donnez à l'Opéra Comique, ça ne donne pas du tout la même chose. Et quand Marc Minkowski a dirigé pour le centenaire de la création de Péléas en 2002, la version originale de Péléas qui a été donnée, qui a été faite pour l'Opéra Comique, les gens qui s'intéressent à la musique ne peuvent pas ne pas remarquer que ce n'est pas le même Péléas et que donc il y a une vérité des œuvres qui s'altère beaucoup quand on passe d'une salle de 1200 places comme à Favart à une salle de 2700 places comme à l'Opéra Bastille.
Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessé à mort, et voici des traces de sang. Que je me suis perdu moi-même, et mes chiens ne me retrouvent plus.
Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, je rappelle que vous êtes présidente de l'Opéra Comique. Nous parlions des créations à l'Opéra Comique et ce qui en fait sa spécificité. Est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a des créations ? Est-ce qu'on peut envisager que dans 2-3 ans, il puisse y avoir des créations de l'Opéra Comique ? Est-ce que c'est encore dans l'air du temps de pouvoir créer un genre, des œuvres qui rentrent dans le genre de l'Opéra Comique ?
Oui, enfin, comme je vous l'ai dit, le genre d'opéra comique, aujourd'hui, il est trop hétérogène pour qu'on puisse véritablement en parler. Par contre, c'est un théâtre de création et ça va le redevenir. Lorsque le gouvernement a décidé de redonner à Favart le statut d'un établissement public,
puisqu'il est
confié à une association, et ce n'est pas vraiment la bonne formule pour gérer un théâtre d'État, c'est un détournement de la formule de l'association, puis ensuite, c'est un mode de gestion très dangereux pour un théâtre. Donc, lorsque le gouvernement a enfin décidé de redonner sa chance au Théâtre Favart, qui est une décision récente, qui est due à Jean-Jacques Ayagon, eh bien, nous avons, donc pour l'essentiel, c'est moi, j'ai rédigé un statut dont les premiers articles définissent la mission de l'opéra comique. Ce qui est une différence avec l'Opéra de Paris, où vous ne trouvez pas dans le statut de l'Opéra de Paris ce qu'est la mission de l'Opéra de Paris. Donc, j'ai tenu à ce que cette mission soit définie conformément à la tradition de ce théâtre. Et donc, nous avons signalé que c'était consacré principalement à l'opéra français, ce qui est une différence déjà avec l'opéra de Paris, qui représente les ouvrages internationaux. Donc, c'est surtout l'opéra français. Ce n'est pas une interdiction de représenter des ouvrages étrangers, mais principalement des ouvrages français. Et sur les moments, nous avons ouvert cela du baroque au contemporain. Pourquoi le baroque? Parce que l'un des grands moments où la salle Favart a retrouvé un certain éclat, et on s'est ressouvenu de la grande tradition de ce théâtre, c'est lorsque William Christie a donné une version historique d'Attis de Lully, qui était là pour le coup un ouvrage de l'Académie royale de musique de Lully, et on redonnait à Favart, et dans une salle dont la configuration permettait de réentendre cet ouvrage en bonne condition. Nous ne pouvions pas donner Attis de Lully à la Bastille, même à Garnier, c'est trop grand. Donc nous ferons, l'opéra comique sera chargé de donner des ouvrages baroques, parce que les conditions d'écoute sont plus favorables à ce répertoire que n'importe quelle grande salle. Mais le contemporain sera également donné, parce que en effet ce théâtre est rentré dans l'histoire par cette façon d'être dédié à la création, à l'invention, et aussi aux jeunes compositeurs et aux jeunes chanteurs. Ça, nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis des jeunes chanteurs. Là aussi, casse moins les voix, les jeunes voix, en les donnant, en les faisant chanter dans des petits théâtres que dans des grands théâtres. Les cordes vocales sont des muscles, il faut qu'ils se forment petit à petit.
Mais est-ce que c'est compatible quand même, l'opéra comique a une certaine vocation de viser un public relativement populaire? Est-ce qu'aujourd'hui, musique contemporaine et musique populaire ne font pas bon ménage? Est-ce qu'il ferait bon ménage à
l'opéra? Ça dépend des musiques contemporaines, vous savez. Il y a des musiques contemporaines qui ne s'intéressent pas au public, et il y en a d'autres qui peuvent le faire. Je pense à un compositeur qu'on entend beaucoup, c'est toujours celui qui est cité, mais enfin, vous prenez Pascal Dussapin, les créations qui ont été données à l'Opéra de Paris ont réussi quand même à remplir la grande salle. Mais je pense à un compositeur que j'aime personnellement beaucoup, qui mérite aussi éventuellement d'être attiré à l'opéra comique, Philippe Herson, fait aussi de très beaux ouvrages, et des ouvrages qui fonctionne parfaitement bien. Vous savez, nous sommes dans une époque où on crée beaucoup plus d'ouvrages lyriques qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Contrairement à ce qu'on pense, le problème de la création lyrique n'est pas qu'elle existe, c'est qu'on redonne les œuvres. Et alors, lors de la première saison de la nouvelle gestion de l'opéra comique, d'ailleurs, il y aura un ouvrage contemporain. Je ne peux pas vous donner le détail de la programmation parce qu'elle n'a pas été encore présentée devant le conseil d'administration de l'opéra comique, dont la responsabilité est d'approuver ces programmations. Mais enfin, il y aura un ouvrage contemporain qui est au programme, mais qui ne sera pas une création, qui sera un opéra qui a été donné il y a 20 ans et qui n'a plus jamais été repris depuis. C'est aussi ça le problème de la création contemporaine. Mais l'opéra comique, vous avez raison, a aussi une tradition, c'était l'opéra préféré des Parisiens. Et c'était théâtre qui était fréquenté par des gens moins privilégiés que la salle de l'Opéra de Paris. Et donc, nous devons aussi retrouver cela. Et donc, nous devrons avoir une programmation qui réattire aussi ce public dont c'est la salle privilégiée. Mais on peut faire dans une saison des choses assez diversifiées, des ouvrages plus populaires et des ouvrages qui réclament un petit peu plus de goût de la curiosité, de désir d'aventure, etc.
Bon. Quel est à vous votre répertoire préféré?
Ah, moi, vous savez, j'ai du mal toujours à répondre à ce type de questions parce que je n'arrive pas à me concentrer sur une période, etc. J'aime beaucoup certains ouvrages, ils se différencient beaucoup. Il y en a, dès le XVIIIe siècle, il y a des musiques... nous avons malheureusement très peu de traces de la musique qui était donnée au XVIIIe siècle parce que beaucoup de ces musiques ont disparu corps et biens.
Vous n'avez pas les livrets?
On a les livrets, ouais. Ils ont été publiés. comme c'était un genre qualifié théâtral, en réalité, on a publié les livrets, mais on n'a pas publié les musiques, donc elles se sont perdues. Mais on sait que certaines ont été réemployées. Et puis, par ailleurs, il y a, par exemple, une des musiques les plus célèbres, qui est la danse des sauvages des Indes galantes de Rameau. C'est que Rameau a commencé par écrire pour la foire, avant de devenir un auteur de grand opéra. Et la danse des sauvages, très célèbre, surtout en ce moment, où on a redonné les Indes galantes de Rameau, vient directement d'un ouvrage Rameau pour la foire, dont le reste de la musique est perdu. Et Rameau a donc réutilisé cette musique dans l'ouvrage qu'il a écrit ensuite pour l'Opéra de Paris.
Et comment faire pour faire qu'un répertoire soit populaire? Est-ce qu'en donnant les Indes galantes de Rameau, on va le donner très différemment de l'Opéra Bastille, évidemment au point de vue de l'architecture, de la mise en scène, etc. Est-ce que pour toucher un public, on va aussi le faire différemment? Quel est votre...
Le parti pris est quand même de donner les œuvres dans leur version originale. C'est l'opéra comique est un théâtre d'État et il a une vocation musicologique. Donc, il n'est pas question d'adapter les œuvres. Il y a des théâtres pour ça. Je ne crois pas que ce soit la vocation de Favart. Par contre, on sait que c'est un genre théâtral. Il ne faut jamais oublier. Donc, ce qui se passe sur scène et la mise en scène est important. Elle a toujours été importante à l'opéra comique, d'ailleurs. Plus importante qu'ailleurs. L'opéra comique aussi est signalé par des inventions scénographiques, un goût du décor, la vérité du décor, les éclairages, etc. Ça a toujours été aussi la caractéristique de la salle Favart. Donc, il faut retrouver ça aussi. Si vous voulez, l'invention de la mise en scène est très importante. Et de ce point de vue, le choix qu'a fait le ministre de la Culture, le gouvernement en général, parce que ça a été discuté au plus haut niveau de l'État, de prendre Jérôme Deschamps comme futur directeur de l'opéra comique, a aussi cette signification. Si vous voulez. C'est la scène qui était moins musicale que l'autre et plus ouvertement théâtrale. Donc, on peut renouveler un ouvrage par la mise en scène. Il faut aussi une très grande qualité des intervenants musicaux. Je crois que nous aurons à mélanger les grands musiciens, enfin les musiciens déjà très, très connus, très expérimentés, Jérôme avec Deschamps les jeunes.
Jérôme Deschamps promet d'attirer Nathalie Dessay, William Christie.
Ah oui, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas trop de mérite de ce point de vue, parce que c'est une salle qui est adorée par les musiciens, qui rêvent tous d'y revenir. Vous savez, William Christie avait lui-même proposé un projet il y a quelques années pour l'opéra comique. Il souhaite beaucoup être extrêmement présent. Bien sûr, il a une légitimité particulière à la salle Favart à cause du grand moment d'Attis. Cela étant, William Christie n'est pas obligé de faire de l'opéra baroque. On peut l'imaginer dans d'autres ouvrages et sans doute nous aurons le privilège de révéler qu'il peut jouer d'autres musiques que celles du XVIIe ou XVIIIe siècle. Mais il n'y a pas que lui. Il y a de grands admirateurs de l'opéra français qui ne sont pas forcément établis en France. William Christie a désormais la nationalité française. Il était américain, il est toujours américain, mais il est aussi français. Vous avez aussi des grands chefs qui... tout en restant non français, se joue particulièrement ce répertoire et qui sont tout à fait désireux, y compris du répertoire du début du XXe siècle. Il y a de grands ouvrages aussi d'opéra comique qui ne sont plus jamais donnés et qui sont des choses extraordinaires. Il y a des ouvrages du XIXe siècle, Guéruté, admirés universellement en Europe. Wagner, par exemple, avec une immense admiration pour les opéras d'Auber, pour un musicien aujourd'hui oublié qui était très important, qui est mort jeune, malheureusement, qui a laissé peu d'ouvrages, mais des ouvrages extrêmement importants, qui s'appelle Hérold. Il y a des tas de choses à redécouvrir en France, car beaucoup de ces ouvrages sont toujours joués à l'étranger. Mais nous ne le savons pas et nous n'avons jamais pensé à inviter les compagnies allemandes, par exemple, qui jouent toujours une partie du répertoire d'opéra comique français. Et puis, par ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure des petits frères, des demi-frères, le Singspiel, etc. Le Singspiel en allemand est carrément un opéra comique français. Vous savez, Mozart a beaucoup utilisé les canevas d'opéra comique français. L'influence d'opéra comique français sur Mozart, on veut l'occulter, mais elle est considérable. L'enlèvement au sérail est tout simplement un opéra comique français qui a été recomposé par Mozart. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle, c'était surtout l'argument qui était caractéristique. Et puis par ailleurs, quand on écoute certains passages de l'enlèvement au sérail, qui est un grand ouvrage de Mozart, et quand vous comparez avec ce qui a été écrit par Grétry, etc., vous apercevez que même la musique de Grétry a inspiré Mozart et que certains effets inventés par les musiciens français ont été repris très largement en Europe. À l'époque, au XVIIIe siècle, l'opéra comique français est le grand genre alternatif de l'opéra seria italien et l'opéra buffa italien a été complètement éclipsé par le genre d'opéra comique
français. Voilà.
Et si vous prenez un musicien qui était très important dans l'histoire de l'opéra français mais qui n'était pas français, qui est Gluck, Gluck a commencé à faire des ouvrages lyriques en écrivant pour la cour de Vienne, adaptant pour la cour de Vienne les opéras comiques de Favart.
Enfin, après bien
bien des fatigues. Nous voilà arrivés au Grand Caire. Tant mieux, la ville est grande. J'y pourrais facilement trouver condition, car je suis obligé d'en changer, puisque mon pauvre maître loge le diable dans sa bourse.
Castagno, Castagno, vista panace. Rimagno, rimagno, posti l'imbace. Chic, bellic, l'urugagne. Chic, bellic, l'urugagne. Pensa che fanno anch'io, io metti per le mani. Se li manca per quello, se li manca per quello. Lero, 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 lero.
Che l'espresto messo là?
Pensa che fanno anch'io, io metti per le mani. Manca per quello, se gli manca per quello.
Les rollos, les rollos, oh, le diable t'emporte avec ton les rollos.
Castagno, Castagno, vista farace. Rimagno, Rimagno, busti l'imbace. Chic, bellic, l'urugagne. Chic, bellic, l'urugagne.
Marie-Vonne de Saint-Pulgent, on parle ici de réintégrer certains ouvrages savants, de les refaire jouer sous un autre regard peut-être. On voit aussi foisonner une multitude de petites troupes qui montent peut-être plus de l'opéra bouffe que de l'opéra comique, qui montent ça parfois dehors, en off de certains festivals et qui marchent très bien. Est-ce qu'il est question même d'intégrer ce genre de spectacle ou est-ce que c'est un peu trop encore en dehors de la vocation de l'opéra comique ?
Non, pas du tout. Vous savez, l'opéra bouffe a été inventé par Offenbach, au XIXe siècle. Offenbach est aussi l'auteur des Contes d'Hoffmann, autre grand ouvrage donné à l'opéra comique et resté au répertoire international. Et lorsque Offenbach a inventé l'opéra bouffe, il a dit explicitement qu'il souhaitait revenir à l'esprit originel de l'opéra comique, celui du XVIIIe siècle, qui avait été un peu perdu de vue avec l'apparition de l'opéra sentimental. Donc c'est aussi le même genre d'opéra comique. Mais lorsque Offenbach disait ça, il avait raison. La plupart des ouvrages donnés à l'époque à l'opéra comique ne relevaient plus du genre bouffe. Mais il y en avait quand même encore. Il y en a eu après. Prenez un ouvrage comme Les Mamelles de Tirésias de Poulain, qui est un des ouvrages les plus étourdissants que je connaisse. C'est un ouvrage opéra comique. Et nous allons d'ailleurs le redonner l'année prochaine, mais en version concert. Les Mamelles de Tirésias, ce sont un ouvrage délicieux et totalement loufoque, qui a été créé au XXe siècle. Donc l'opéra bouffe, bien sûr, appartient tout à fait au genre de l'opéra comique. Et il n'y a aucune raison de se priver de cela. Ce sont typiquement des ouvrages qu'il faut reprendre, alors pour le coup, avec des gens jeunes. Parce que ce sont des ouvrages légers et où il faut toute sa chance à l'inventivité de la jeunesse.
Même des jeunes troupes
Ah oui, oui, absolument. Nous avons une chance, ce qui est vécu comme un handicap par certaines maisons, mais ce que moi je considère une chance pour le théâtre, nous n'avons pas de troupes, nous n'avons plus d'orchestre, nous n'avons plus de chœur, nous n'avons plus de ballet. Tout cela, ça existait. L'opéra comique, ça a été retiré à l'opéra comique et transféré à l'opéra de Paris. Donc, contrairement à l'opéra de Paris, qui est tenu d'exploiter sa compagnie, l'opéra de Paris est un théâtre qui a une compagnie permanente. Donc il doit faire jouer son orchestre, il doit faire danser son ballet, il n'a pas de chanteur attaché mais il a un chœur, et donc il ne peut pas inviter d'autres orchestras. Nous, nous n'avons pas de compagnie, mais nous avons une scène célèbre, une tradition, un répertoire. Donc nous sommes au contraire ouverts et nous allons collaborer, c'est aussi écrit dans le statut, nous avons pour vocation de faire venir ces troupes, de collaborer, d'ouvrir notre scène et de faire connaître dans une salle, encore une fois, célèbre, historique, de donner une certaine légitimité à tous ces gens qui s'intéressent à ce répertoire, etc. C'est ce que je considère, encore une fois, comme une chance.
Ça veut dire que vous êtes aussi ouvert à des ouvrages peut-être plus satiriques,
Oui, d'autant plus qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est ça l'origine du genre. Le genre est devenu très hétérogène, nous en sommes d'accord, mais nous devons respecter toute son histoire, du début jusqu'à la fin, de l'opéra parodique et satirique jusqu'à l'opéra sérieux du XXe siècle, mais qui n'a pas toujours été sérieux. Vous avez cité l'heure espagnole de Ravel. L'heure espagnole de Ravel est aussi une loufoquerie qui a été créée sur l'opéra comique, où Ravel est en train de parodier Péléas et Carmen. L'histoire de l'heure espagnole, cette dame qui veut tromper son mari et qui est encombrée de 3 prétendants, etc., c'est à la fois une moquerie sur Carmen, hein, le choix qu'elle fait du muletier solide, etc. C'est un rappel du choix que fait Carmen d'Escamillo, du toréador par rapport à son amant officier. Mais aussi, c'est une ironie sur Péléas, puisque, en fait, c'est la même disposition triangulaire. C'est une femme qui trompe son mari avec le frère de celui-ci. Mais là, elle choisit Péléas, cette figure essentiellement éthérée, romantique, etc. Donc Ravel ironise. Et on voit d'ailleurs, l'heure espagnole commence par une musique nocturne, hein, c'est la nuit dans l'atelier de l'horloger qui est le mari de l'héroïne, c'est la parodie délibérée du nocturne de Péléas, qui commence par Ogolo qui erre la nuit dans une forêt et rencontre Mélisande. Ce genre-là n'a jamais quitté véritablement la scène de l'opéra comique et donc il faut qu'il y revienne.
Alors parlons de choses concrètes puisque vous êtes présidente de l'opéra comique et donc présidente du conseil d'administration. Vous parliez tout à l'heure de l'absence d'orchestre, l'absence de chœur. Est-ce que vous souhaiteriez obtenir de nouveau ces infrastructures, enfin, si on peut parler d'infrastructures?
Non, absolument pas. C'est une époque révolue. Encore une fois, il existe un théâtre d'État. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi 2 institutions musicales d'État à Paris, hein. Je vous répondrai parce que c'est comme ça depuis 3 siècles. Il n'y a pas de raison. Nous sommes un État plus riche qu'il y a 3 siècles. Il y a plus de monde à Paris. Il y a plus de monde à la fois qui habite Paris et qui vient à Paris. Et donc, ce que nous pouvions faire il y a 3 siècles, il n'y a pas de raison de ne pas le faire aujourd'hui. Surtout dans un État qui estime qu'il a un devoir particulier vis-à-vis de la démocratisation de la culture. Mais par contre, il faut que ces théâtres soient différents. C'est sûr qu'ils n'ont pas la même vocation. Donc, il y a un théâtre qui exploite le répertoire international avec une compagnie célèbre, qui est la Compagnie de l'Opéra de Paris, à laquelle je tire mon chapeau, hein. Un des meilleurs orchestres parisiens, si ce n'est le meilleur, un chœur célèbre, un ballet mondialement connu. Très bien, nous n'allons pas décliner sur vraiment un moindre niveau de qualité ce que fait déjà l'Opéra de Paris. Donc nous sommes une scène, nous exploitons un genre mondialement connu, le seul genre français, encore une fois, qu'on l'en connaisse encore, et une scène historique célèbre qui a vu la création d'ouvrages extrêmement importants et donc qui est un lieu historique de théâtre et un lieu de création, etc. Donc nous allons rester comme ça. Et il y a suffisamment de troupes et de compagnies qui existent
et variées
pour ne pas leur faire une nouvelle concurrence avec une institution qui d'ailleurs deviendrait trop lourde financièrement et ne pourrait pas avoir les moyens de bien fonctionner. Cela étant, il faut se souvenir que l'Orchestre d'Opéra Comique a été aussi un grand orchestre. Il existe encore beaucoup, puisqu'il a été liquidé il y a peu de temps. Il existe des tas d'enregistrements qui permettent de vérifier que c'était un orchestre important. Enfin, il y a des tas d'orchestres à Paris maintenant. Ils viendront et nous conventionnerons avec des orchestres pour qu'ils soient en résidence à l'Opéra Comique, et puis ensuite pour quelques années, ensuite on en changera, etc.
Pour en venir encore à des choses très très concrètes, parlons subventions. On sait que Jérôme Deschamps prend ses fonctions en 2007 et qu'il réclame une augmentation substantielle du financement et des subventions de l'État. Est-ce que vous pensez qu'il va l'obtenir? Et si oui, ça servira à quoi?
Écoutez, la subvention actuelle de l'Opéra Comique est déjà substantiellement supérieure à celle qui existait quand je suis arrivée.
Vous êtes arrivée en 2003. Hein.
En 2003, voilà. Elle a déjà substantiellement augmenté. Nous avons eu cette année, par exemple, 15% d'augmentation de la subvention, ce qui, quand vous comparez la situation des autres théâtres, est très significatif. Et ceci, d'ailleurs, pour répondre à ce que dit parfois Jérôme Savary, qu'on attend l'arrivée de son successeur pour augmenter la subvention. C'est assez injuste vis-à-vis de l'État, qui a pris la décision de remonter ce théâtre et qui donc a pris immédiatement des mesures budgétaires pour lui redonner les moyens d'exister. Mais nous partons très bas, parce que la subvention qui était donnée à l'Opéra Comique à l'époque où je suis arrivée, et qui était déjà supérieure à celle dont disposait Pierre Médecin quand il dirigeait le théâtre, et encore supérieure à celle dont disposait Thierry Fouquet lorsqu'il le dirigeait avant Pierre Médecin, cette subvention faisait de l'Opéra Comique le théâtre le plus pauvre, le théâtre officiel le plus pauvre de France, c'est-à-dire plus pauvre que le plus petit des théâtres de province. Et donc, on demandait à ce théâtre de trouver ailleurs ses moyens de fonctionner, c'est-à-dire clairement en donnant des ouvrages pas chers à produire et susceptibles de remplir 70 fois la salle. Alors, c'est pas raisonnable. On ne peut pas vivre, dans ce cas-là, avec des ouvrages lyriques. On vit avec de l'opérette. Et l'opérette n'a pas besoin d'un théâtre d'État pour exister. Précisément, c'est un genre qui peut vivre dans le système marchand. Donc, il y a une contradiction flagrante à obliger un théâtre qui appartient à l'État, qui est structurellement lourde en raison même de son architecture et de son ambition initiale. Il faut se souvenir que l'actuelle salle d'opéra comique a été construite à la fin du XIXe siècle, après un incendie qui a été tragique, qui a fait beaucoup de morts, et à la suite d'un long débat d'ailleurs, car périodiquement il y a eu ce genre de débat, où la Chambre des députés s'est interrogée sur le point de savoir s'il fallait reconstruire l'opéra comique, et finalement, après 10 ans, 15 ans d'hésitation, a fini par le faire. Donc, c'est un théâtre lourd, qui coûte cher, par sa structure même. Et donc dans ce cas-là, puisque de toute façon ça coûte cher aux contribuables, autant faire les choses bien et lui donner les moyens de fonctionner. Mmh. Alors, il faut relativiser aussi. Quand Jérôme Deschamps demande une subvention plus importante, il demande, disons, 3 ou 4 millions supplémentaires de plus par an d'euros. C'est ce que l'Opéra de Paris a chaque année pour fonctionner comme avant. C'est-à-dire, c'est par rapport au budget du ministère de la Culture, ça n'est pas grand-chose. Je veux dire, il suffirait, disons, de faire quelques dizaines de levées de rideaux de moins à l'Opéra de Paris pour financer la totalité de ce que Jérôme Deschamps réclame pour faire fonctionner correctement l'Opéra comique. Donc, c'est une question de choix politique. Et je crois pouvoir dire que le gouvernement et le ministère de la Culture ont fait le choix de redonner à l'Opéra comique les moyens de fonctionner, donc de réparer une injustice commise qui a commencé à exister quand on a, en 1939, décidé de faire de l'opéra comique une salle annexe de l'Opéra de Paris. Ils ont pris la décision, ils iront jusqu'au bout. Maintenant, ça repose sur la qualité du projet artistique proposé par Jérôme Deschamps, et donc de sa capacité à convaincre que ce qu'il propose de faire pour le prix qu'il demande vaut la peine. Enfin, c'est normal, ça.
Qu'est-ce qui va être fait de ces subventions supplémentaires? Est-ce que...
Ça permettra de remonter des ouvrages qui coûtent cher à produire. Actuellement, l'opéra comique n'a pas les moyens de faire ça, encore une fois. Et ça s'améliore, comme je vous l'ai dit, la subvention a augmenté cette année. Mais quand je suis arrivée, il faut savoir que la salle était quasiment en cessation de paiement.
Donc il faut renflouer les caisses.
En 2003, nous avions une impasse budgétaire de plus d'1,5 million d'euros. Et si on n'avait pas réussi à avoir une subvention complémentaire d'1,5 million d'euros à la fin de l'année 2003, qui nous a été accordée à la fin d'octobre 2003, nos banquiers nous obligeaient à fermer.
La situation en 1999, la saison avait dû être annulée.
Et on avait annulé la dernière saison de Pierre Médecin. Donc voilà, c'était pas digne, si vous voulez, ce n'était pas digne. Et cela, malgré les efforts louables de Jérôme Savary pour attirer le maximum de public. Mais il n'avait pas les moyens de faire autre chose que ce qu'il a fait, c'est-à-dire de jouer les séries longues avec des ouvrages montés, avec exclusivement des troupes très jeunes, donc peu chères, des troupes pour l'essentiel venant du théâtre et non pas du lyrique, c'est-à-dire des chanteurs un petit peu, des voix d'opérette, et puis surtout pas de musiciens dans la fosse, donc avec des adaptations permettant de réduire le nombre de musiciens. Et ça ne peut pas durer. Enfin, encore une fois, c'est des choses qu'on fait à Mogador, mais qu'on ne fait pas à la salle Favart. Donc, que va faire Jérôme Deschamps de ses subventions? Eh bien, il va monter des ouvrages qui réclament 60 musiciens dans la fosse, des musiciens, des orchestres grande valeur musicale, des chanteurs qui peuvent être jeunes mais qui ont des voix convenant à l'opéra comique, des chefs importants, voire des jeunes chefs mais talentueux, et puis des moyens de mise en scène, etc. Et puis surtout, des ouvrages qui ne seront pas donnés 70 fois, car les voix d'opéra ne peuvent pas chanter 70 voix de suite, donc ils seront donnés 10, 12, 15 fois. Et le reste de la programmation, d'ailleurs, permettra, avec des concerts, des projections, des conférences, des récitals, d'éclairer toute une époque, d'éclairer un compositeur un peu oublié, ou présent dans d'autres secteur que le lyrique, et de faire un petit peu aussi de pédagogie vis-à-vis du public sur ce qu'est le répertoire français musical qu'on a un petit peu tendance à ne pas donner en France.
J'imagine que ce sera aussi votre part en tant que musicologue.
Oui, enfin moi je ne suis que le président de cette maison, donc je suis là pour aider les dirigeants, mais évidemment comme vous le voyez ce sont des sujets qui me passionnent et sur lesquels moi-même je m'investis en tant qu'essayiste plutôt.
Et Jérôme Deschamps aussi parle de vouloir rétablir une humeur, une couleur, voire une rumeur au théâtre. Et il a l'air d'être très attaché au lieu même, oui, au lieu de théâtre.
Je confirme.
Même de, de ramener certains métiers de théâtre, si j'ai bien compris, à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais ça veut dire, par exemple, nous avons un atelier de costumes qui était très actif autrefois et qui ne l'est plus du tout aujourd'hui. Il y a effectivement aussi un appauvrissement des équipes techniques du théâtre, qui était très aimé des musiciens aussi parce que c'est le dernier théâtre à l'italienne présent à Paris. Parce qu'en réalité, l'Opéra de Paris n'est plus un théâtre à l'italienne. Nous avons des dessous qu'il faut restituer avec son fonctionnement d'origine, avec les apparitions. Parce que c'est une scène qui n'a pas de dégagement sur les côtés, parce que tout se passait à l'époque de façon verticale. C'est-à-dire les décors descendaient des cintres ou montaient des dessous. Alors c'est un fonctionnement théâtral que Jérôme Deschamps veut restituer en disant aux metteurs en scène, adaptez-vous, non pas adaptez le théâtre à la mise en scène. J'apprécie d'ailleurs énormément ce côté patrimonial qu'a Jérôme Deschamps, le patrimoine musical, opéra comique, mais aussi le patrimoine technique théâtral de la salle et aussi le grand patrimoine pictural, car nous avons un foyer qui a été décoré au XIXe siècle par de grands peintres du XIXe que vous trouvez par exemple à Orsay. Nous avons une grande peinture de Gervais, des peintres célèbres de l'époque. Il faut restaurer tout ça, il faut respecter tout cela. Un magnifique monument qui est d'ailleurs classé monument historique. Nous avons aussi un grand programme de travaux de restauration de cette salle à laquelle s'attache particulièrement Jérôme Deschamps, dont le grand-père, qui était membre de l'Institut, a d'ailleurs été très actif dans les monuments historiques. C'est un des auteurs du Musée des monuments français, le grand-père de Jérôme Deschamps. Donc, il n'est pas surprenant que Jérôme Deschamps s'intéresse au patrimoine.
Oui, Jérôme Deschamps n'est pas que un des gestionnaires de la troupe des Deschiens.
Oui, l'inventeur d'ailleurs des Deschiens. Non, ce n'est pas que ça. Il est très... Vous savez que dans les spectacles qu'il fait avec son épouse Macha Makaïev sur le spectacle de théâtre, la musique est toujours extrêmement présente. C'est une de leurs caractéristiques. C'est la musique originale avec des musiciens qui improvisent. D'autre part, il a fait plusieurs mises en scène lyriques qui ont été soulignées, remarquables, où il montre que justement un metteur en scène de théâtre peut donner à certains ouvrages, y compris des ouvrages inattendus, des ouvrages venant d'un autre répertoire, le lyrique sérieux. Et puis encore une fois, moi j'ai connu Jérôme Deschamps lorsque je gérais le musée du monument français, celui de son grand-père, et où certains esprits considéraient que c'était un musée de copie, comme on dit, qui n'avait aucun intérêt. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu spontanément me trouver en disant qu'il allait m'aider à sauver ce musée des vandales qui voulaient le détruire. Et donc, je trouvais ça formidable pour un homme qui avait autre chose à faire que de prendre ses risques. Il est authentiquement décidé à redonner à Favart la totalité de ce qu'il a été. Mais dans le monde actuel, les métiers de théâtre dont il parle sont les métiers de derrière la scène. Et il y tient beaucoup, effectivement.
Nous sommes donc impatients de voir à quoi va ressembler l'opéra comique dans 2-3 ans et même plus. On espère encore vous y retrouver, Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle donc que vous êtes présidente de l'opéra comique, auteur du Syndrome de l'opéra aux éditions Robert Laffont et Le gouvernement de la culture aux éditions Gallimard, et que vous avez été, il faut le rappeler, directrice du patrimoine au ministère de la Culture. Donc vous savez exactement de quoi vous parlez. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Bonne journée à tous. Groupe dans les restaurants, petit télégraphiste.
tenir à long cette vieille danseuse qui a tant de talons.
Donnez-moi du large, je te dis, donnez-moi du large.
Vous l'entendez?